Les grands titres de ce mardi 3 novembre. En Australie, le gouvernement perd des appuis précieux au Sénat. Deux hommes sont arrêtés à Sydney lors de raids de l'équipe de contre-terrorisme de Nouvelle-Galles du Sud. Et en France, après quelques jours de tension, le gouvernement a affiché sa cohésion. En Australie, il semble que le gouvernement ait perdu d'importants supporters au Sénat. Le sénateur de Family First, Bob Day, a quitté le Parlement en raison de problèmes avec son entreprise et devrait s'y passer en cours en lien avec une affaire d'intérêt financier impliquant le Commonwealth. Et le sénateur de One Nation, Rod Colton, c'est la validité de son élection qui est mise en cause en raison d'une condamnation pour vol qui a depuis été annulée mais qui était en place au moment de l'élection. La leader travailliste au Sénat, Penny Wong, a confié à ABC que ça rendra le travail du premier ministre plus difficile.
At the moment, the government's paralyzed, aren't they? And let's remember, Malcolm Turnbull went to a double dissolution election for two reasons. One was he wanted to pass these industrial relations bills. He said they were the most important economic reform. And second, to clean out the crossbench and make the Senate more manageable. Well, we've got the IR bills not on the agenda, a government that doesn't know whether it's going to bring them back or not, and of course we've got an even bigger crossbench, and now with two of them going to be referred to the Court of Disputed Returns.
La leader travailliste au Sénat, Penny Wong. Deux hommes ont été arrêtés à Sydney lors de raids de l'équipe de contre-terrorisme de Nouvelle-Galles du Sud. Les deux hommes de 24 et 17 ans seront accusés d'avoir enfreint des lois en lien aux incursions étrangères. L'assistante au commissaire de police de la Nouvelle-Galles du Sud, Catherine Byrne, a dit que la police avancera que l'un des hommes s'est rendu en Syrie pour joindre le conflit.
We will be alleging that one potentially did engage in foreign incursions. The other didn't engage in foreign incursions. But generally speaking, we would say that there's a conflict. They use weapons, they use IEDs, and they have an intent to kill people.
L'assistante au commissaire de police de la Nouvelle-Galles du Sud, Catherine Byrne. La principale organisation représentant les aborigènes devra cesser ses opérations d'ici la fin de l'an prochain si elle ne reçoit pas plus de financement. Le gouvernement fédéral a retiré le financement du National Congress of Australia's First People en 2014, refusant de leur donner un autre 15 millions de dollars sur trois ans. En mai, le ministre des Affaires étrangères, Nigel Scullion, a critiqué l'organisation, disant qu'elle avait déjà reçu des dizaines de millions de dollars et que l'argent avait été mal dépensé. La coprésidente du National Congress of Australia's First People, Jackie Huggins, a dit que l'organisation avait la difficulté à survivre et qu'elle souhaitait améliorer sa relation avec le gouvernement.
We have a huge job to do in terms of resetting the relationship with the government and getting on with the very important business that we need to do to ensure that the social indicators of our people don't continue to decline.
C'était Jackie Huggins. Des travailleurs de la centrale d'Hazelwood dans la vallée de Latrobe dans le Victoria doivent rencontrer des représentants de la compagnie française Engie pour savoir quand la centrale fermera. Des centaines de personnes seront sans travail quand la centrale de charbon sera fermée, probablement en mars prochain. Le premier ministre Malcolm Turnbull a dit que son gouvernement travaillerait en collaboration avec le Victoria pour supporter les communautés touchées.
This has been foreshadowed for some time, and we have established some time ago a ministerial task group to within the government to ensure that we provide the support that the community needs to ensure that there are jobs and opportunities for the workers that will lose their jobs as a result of this power station closing.
Le premier ministre Malcolm Turnbull. À l'international maintenant, en Syrie, les forces russes et syriennes vont temporairement stopper leur frappe sur le nord d'Alep pour permettre à des civils et des combattants de partir. Huit corridors humanitaires pour sortir d'Alep devraient être ouverts. Récemment, des forces de l'opposition ont attaqué des zones résidentielles tenues par le gouvernement à l'ouest de la ville. La Russie a demandé que les rebelles modérés se distancent des organisations déclarées terroristes par l'ONU. Le cessez-le-feu devrait donner une chance à ces rebelles de lâcher les armes et quitter la ville, selon le général russe Valery Gerasimov.
All attempts made by the militants in the city of Aleppo to break out have failed. The terrorists suffered heavy losses in manpower, hardware and military equipment. They've no chance to break out of the city. To avoid needless casualties, the Ministry of Defense of the Russian Federation has announced a humanitarian pause in Aleppo on the 4th of November from 9 a.m. to 7 p.m. local time.
Le général russe Valery Gerasimov. En Irak, l'armée continue d'avancer sur la ville de Mossoul. Elle tente en ce moment de reprendre le quartier de Goglaji au groupe État islamique. Les précisions d'Oriane Verdi.
Les forces spéciales irakiennes se trouvent maintenant à 600 mètres de l'entrée de Mossoul. Suite aux avancées des derniers jours, les militaires doivent aujourd'hui stabiliser plusieurs zones urbaines à l'est de la ville. Les habitants ont reçu l'ordre de rester chez eux. Il faut donc vérifier maison par maison qu'aucun djihadiste n'est resté caché parmi la population. Le commandement des forces spéciales irakiennes s'est installé dans un ancien bureau de l'organisation État islamique à l'entrée de la ville de Bazouaya. Là, le colonel Muntazir Al-Shamar me confiait qu'aucun soldat irakien n'entrera dans Mossoul avant que les fronts nord et sud-est soient également aux frontières de la ville. Selon lui, même si les forces spéciales sont aujourd'hui prêtes à lancer l'assaut, elles ne seront pas suffisamment nombreuses pour mener une offensive décisive. Les soldats risquent de se trouver encerclés par les djihadistes. La stratégie est donc d'attendre afin de progresser petit à petit dans Mossoul. Pénétrer dans la ville par différents fronts permettra de prendre le temps de s'assurer qu'aucune force terroriste ne reste dans les quartiers.
Oriane Verdi pour RFI. Le Kenya a annoncé qu'il se retirait de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. C'est après que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, ait renvoyé le commandant de mission kenyan après que ses troupes n'aient pas protégé des civils contre une attaque des forces gouvernementales en juillet. Une enquête de l'ONU accuse les casques bleus kenyans de ne pas avoir répondu à de multiples demandes d'aide. Le gouvernement kenyan a rejeté les résultats de l'enquête et a dit retirer ses troupes car leur déploiement n'est plus soutenable. Aux États-Unis, à 5 jours de l'élection présidentielle, l'écart se resserre entre Hillary Clinton et Donald Trump. Les derniers sondages donnent Trump vainqueur dans plusieurs États clés. Barack Obama s'est donc rendu faire campagne pour Hillary Clinton là-bas, entre autres en Caroline du Nord, dans l'Ohio et en Floride. Reportage de Stéphanie Schuller.
En 2008, 90% de l'électorat noir avait voté pour Barack Obama. 8 ans plus tard, les Afro-Américains sont bien moins mobilisés pour celle qui souhaite succéder au président sortant. Hillary Clinton est à la traîne, notamment en ce qui concerne le vote anticipé. Exemple, il y a 4 ans, en Floride, à une semaine du scrutin, 25% des Afro-Américains avaient déjà mis leur bulletin dans l'urne. Cette année, leur participation n'est que de 15%. Ce mercredi matin, Barack Obama a été l'invité du Tom Joyner Morning Show, une émission de radio à l'audience largement afro-américaine.
Le vote afro-américain n'est pas aussi robuste qu'il devrait l'être. Je sais que beaucoup de gens, chez le coiffeur, dans les salons de beauté ou encore dans les quartiers noirs, se disent « On aime Barack, on adore Michelle ». C'était une expérience excitante, mais maintenant nous ne sommes plus aussi enthousiastes. Mais vous savez quoi? Chacun d'entre vous doit comprendre que tout ce que nous avons réussi à faire dépend maintenant de ma capacité de passer le flambeau à quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que moi.
Barack Obama ne fait donc pas seulement campagne pour Hillary Clinton, il tente avant tout aussi de sauver son héritage politique que Donald Trump a d'ores et déjà promis de défaire en cas de victoire.
Stéphanie Schuller pour RFI. Le président Obama a profité de ses sorties pour parler de l'enquête du FBI sur les emails d'Hillary Clinton. On se rappelle que le directeur du FBI a ramené l'enquête sous les projecteurs à quelques jours de l'élection. Barack Obama a dit qu'il n'interférerait pas avec l'enquête, mais a critiqué la façon dont elle avait été annoncée publiquement.
There is a norm that, you know, when there are investigations, we don't operate on innuendo, we don't operate on incomplete information, we don't operate on leaks. We operate based on concrete decisions that are made.
Le président américain Barack Obama. L'élection américaine, elle est la semaine prochaine. L'élection française, elle, c'est dans quelques mois. On parle déjà beaucoup de cette présidentielle. Dans le camp de la majorité, il semblait avoir des contentieux depuis quelques jours, mais hier, le gouvernement a affiché sa cohésion. Reportage de Guillaume Naudin.
Cohésion et solidarité, c'est l'image affichée après les tensions des derniers jours entre le Premier ministre et le Président. Pour le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll, l'exécutif fonctionne selon 2 principes.
un président qui préside et un Premier ministre qui gouverne.
Cela ressemble à un recadrage et le patron du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Bruno Le Roux, enfonce le clou.
Il y a un président de la République qui a été élu. C'est lui qui est porteur du bilan, c'est lui qui sera en même temps porteur de la continuité de cette action. Et il faut qu'il ait autour de lui une équipe qui mette bien en application ce qu'il a décidé.
Pour les proches de Manuel Valls, cela se discute, le député du Val-d'Oise, Philippe Doucet.
Le vrai sujet, c'est comment on fait que la gauche social-démocrate ne disparaisse pas du paysage politique. C'est ça l'enjeu qu'on a aujourd'hui. Quand on voit le niveau de François Hollande dans les derniers sondages, y compris chez les sympathisants socialistes dans son cœur de son électorat, ça c'est l'enjeu qui est le nôtre.
Et l'impatience commence à s'entendre chez cet autre proche de Manuel Valls, le député de la Vendée, Hugues Fourage.
Je sais bien que le président est le maître du temps et des horloges, mais au-delà de ça, ces 6 semaines qui sont mises à profit de quoi ? De l'attente. Eh bien, je crois qu'à un moment donné, cette attente, elle est préjudiciable à la gauche.
6 semaines, c'est le temps qu'il reste jusqu'au 15 décembre, date limite pour présenter sa candidature à la primaire socialiste.
Guillaume Nodin pour RFI. Un coup d'œil à la météo avant de passer au sport avec Christophe. Du soleil presque partout au pays aujourd'hui, l'été arrive enfin. À Perth, c'est 24 degrés. Adélaïde, 25. Melbourne, 22. Hobart, 18. À Canberra et Wollongong, 23. Sydney, 25 degrés. Newcastle, 24. Brisbane, 27. Cairns, 31. Et à Darwin, 34 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 3 novembre. En Australie, le gouvernement perd des appuis précieux au Sénat. 2 hommes sont arrêtés à Sydney lors de raids de l'équipe de contre-terrorisme de Nouvelle-Galles du Sud. Et en France, après quelques jours de tension, le gouvernement a affiché sa cohésion.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.